Bonjour frères et sœurs, joyeux jour de fête. Je suis assis aujourd'hui pour ce sermon car je souffre d'un peu de sciatique et je prends le soin de me reposer un petit peu le dos. Eh bien, comme j'ai dit, je vous souhaite une heureuse fête des expiations. Un peu difficile à croire que nous sommes déjà dans la période des fêtes d'automne, mais nous voici. Et j'espère que vos préparations pour la fête des tabernacles sont en bonne voie. Et j'espère pour nous tous que nous pourrons célébrer la fête ensemble avec d'autres personnes dans de bonnes conditions. C'est notre prière. Chaque année, au moment de ce jour, de cette fête, nous considérons le sujet des expiations. Et en particulier, nous considérons une cérémonie solennelle qui était observée le temps en ancien Israël en ce jour. Avec les deux boucs, c'est une cérémonie que nous retraçons presque chaque année, du moins certains aspects, afin de pouvoir comprendre la signification de ce jour. Ce jour qui touche au sujet de l'expiation, bien sûr, du pardon. En fait, c'est appelé le grand pardon par les Juifs, parfois, Yom Kippour. Et Kippourim, c'est s'affaire avec cette idée d'expier un péché et d'être pardonné. Aujourd'hui, je voudrais faire quelque chose de peut-être un peu différent, du moins ce serait différent pour moi, je n'ai pas traité le sujet de cette façon auparavant, mais nous étudions le sujet de l'expiation que Jésus-Christ a accompli pour l'humanité en offrant son propre sang, c'est l'idée principale de ce jour, mais l'idée de l'expiation, le mot « expiation », n'est pas seulement employé en conjonction avec ce jour. Il y a d'autres utilisations du mot « expiation » ou des mots qui peuvent être traduits par « expiation ». Ça existait dans d'autres facettes de la société et c'est une idée courante dans certaines situations. Alors, pour mieux comprendre ce jour, aujourd'hui, je propose que nous regardions ensemble d'autres utilisations d'expiation dans d'autres passages que nous ne prenons pas d'habitude pour considérer ce sujet. Et j'espère, je suis convaincu même que nous allons glaner certaines informations que peut-être nous n'aurions pas pensé ou vu de la même manière auparavant. Et j'espère que ça va enrichir notre compréhension de l'idée de l'expiation que nous observons, que nous célébrons aujourd'hui. Alors, comme j'ai dit, nous n'allons pas forcément aller dans les passages que nous prenons chaque année, je suis convaincu que vous allez trouver ceci intéressant. Tout d'abord, prenons Ésaïe, chapitre 6, verset 7. Ésaïe, chapitre 6, verset 7. Nous sommes vers le début du ministère d'Ésaïe, et le mot « expier » est utilisé ici, et nous voulons comprendre pourquoi et ce que cela signifie pour nous. Ésaïe, chapitre 6, verset 6, « L'un des séraphins vola près de moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. » Verset 7, « Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Avant de pouvoir prêcher la parole de Dieu aux nations, différentes personnes à qui Ésaïe était envoyé, il fallait cette purification symbolique, on va dire. Et c'est venu de la part de Dieu par l'un de ses anges, un séraphin, qui a pris cette pierre ardente de l'autel qui représente la présence de Dieu. Il a touché les lèvres d'Ésaïe, il a dit « ton péché est expié ». Alors, un premier point que nous voyons par ce passage-ci, c'est que le pardon, l'expiation, ne peut venir que de Dieu. Ça doit être opéré par Dieu. C'est le point de départ. C'est Dieu qui peut déclarer ou effectuer l'expiation, qui pardonne nos péchés. Le pardon, de manière ultime, ne peut venir que de Dieu. C'est Dieu seul qui peut pardonner nos péchés, et nous comprenons comment il a choisi de le faire, par le sang versé de son Fils Jésus-Christ. Ce jour, donc, représente un grand jour de pardon de la part de Dieu, de la part de Dieu envers Israël, historiquement, mais nous savons que dans l'avenir, ce grand pardon pourra s'étendre à toute l'humanité. Ça sera offert à Israël d'abord et finalement le monde entier. Donc ça, c'est un point important que nous comprenons, mais c'est intéressant de le trouver ici en Ésaïe. Il faut que Dieu intervienne pour qu'il puisse avoir expiation, le pardon de nos péchés. Et nous allons garder cette idée fermement en tête, mais nous allons quand même voir que le mot est utilisé autrement également, même par l'entremise des êtres humains, et ça va nous aider à comprendre plus profondément notre sujet aujourd'hui. Regardons maintenant Exode, chapitre 30. Nous avons notre passage où le mot se trouve. Exode, chapitre 30, verset 15. Ben, prenons le verset 11 pour mieux voir le contexte ici. Exode, chapitre 30, à partir du verset 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux payera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. » Comprenons que le dénombrement était un moment dangereux pour les rois, parce qu'ils pouvaient facilement commencer à calculer sur leur force, plutôt que de comprendre que toute leur force venait de Dieu. Et dans le contexte, donc, Dieu voulait que chaque Israélite se rachète. Donc, c'est ce qu'il devait faire. Il paiera à l'Éternel le rachat de sa personne afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement, un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 guéras, un demi-cycle sera le don prélevé pour l'Éternel. Tout homme compris dans le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus paiera le don prélevé pour l'Éternel. Le riche ne payera pas plus, et le pauvre ne payera pas moins d'un demi-cycle comme don prélevé pour l'Éternel, afin de racheter leur personne. Dieu a institué le rachat des personnes. À chaque fois qu'il y avait un dénombrement, il y avait un petit impôt qu'il fallait payer. C'était pour racheter, et le mot en hébreu, là, c'est « kaper » ou « kippour », donc on aurait pu traduire l'idée d'expiation là dans ce passage, mais ici le contexte indique une meilleure traduction, c'est racheter. Il devait se racheter symboliquement. Quelle est la leçon pour les Israélites? Quelle était la leçon et quelle peut être une leçon pour nous aujourd'hui? Eh bien, Israël appartenait à Dieu. Israël était son peuple. Il s'était donné à Dieu au mont Sinaï. Il devait symboliquement donc se racheter, racheter leur vie à l'Éternel. Et il n'est pas difficile pour nous de comprendre comment ceci pourrait s'appliquer à nous aujourd'hui. Nous aussi, nous appartenons à Dieu. C'est Jésus-Christ qui nous a rachetés. Nous ne pouvons pas nous racheter, eux ne pouvaient pas dans le sens spirituel non plus. Nous devons comprendre que notre rachat, notre expiation a été accompli par le sacrifice de Jésus-Christ. Mais nous ne devons pas oublier le fait que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous avons été rachetés, nos péchés expiés. Nous appartenons à Dieu. Nous n'avons pas le droit de disposer de nos vies en désaccord avec la volonté de Dieu. Nous n'avons pas le droit. Nous appartenons à Dieu, pur et simple. Nous ne pouvons pas racheter nous-mêmes. Nous avons déjà été rachetés. Et nous appartenons pleinement à Dieu. Les Israélites devaient se racheter symboliquement. Nous avons été rachetés. Ça me rappelle l'histoire d'un petit garçon qui a fabriqué un petit bateau en bois, un jouet. Il a formé avec soin, il a peint avec soin. Puis allé jouer dans la forêt côté de chez lui, là où il y avait un ruisseau. Il a mis son bateau dans ce petit ruisseau, il a joué avec joie. Et puis à un moment donné, le bateau lui a échappé et il l'a vu partir dans le ruisseau. Il l'avait perdu. Quelques jours après, quand il se promenait dans son village, il passait à côté d'une petite boutique qui vendait des objets d'occasion. Et voilà que son bateau était là, derrière la vitrine. Il était joyeux, il est allé dedans, ça ne coûtait pas beaucoup, donc il a pu racheter son bateau. Et quand il sortait de la boutique, eh bien, il a dit à son bateau, « Maintenant, tu m'appartiens deux fois. Premièrement, parce que je t'ai créé, et deuxièmement parce que je t'ai racheté. Et cette histoire me fait penser à nous. Nous appartenons doublement, deux fois, à Dieu également. Il nous a créés, il nous donne la vie, et il nous a rachetés par le sang versé de son Fils. Il nous a créés et la mort de Christ nous a rachetés. Alors nous ne devons jamais oublier que nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu et nous devons chercher à accomplir sa volonté avant notre volonté. Nous le disons, mais nous savons aussi qu'en tant qu'être humain, il est facile d'être distrait parfois et de finir par accomplir non pas sa volonté, mais notre volonté. Alors c'est une lutte, nous devons veiller à cela et c'est une leçon que Dieu souligne pour nous à chaque année quand nous observons cette fête. Maintenant, dans Exode chapitre 32, nous avons encore un autre passage. Exode 32, verset 30. Les enfants d'Israël avaient péché avec le veau d'or. Dieu a sévi sévèrement envers les Israélites. Mais notons quelque chose que Moïse a dit ici au verset 30. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. » Je vais maintenant monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon de vos péchés. J'obtiendrai peut-être le pardon, et encore une fois, c'est le mot Kippour, le mot qui décrit ce jour que nous célébrons aujourd'hui. J'obtiendrai peut-être le Kippour, le pardon de votre péché. Moïse était en quelque sorte un intermédiaire. Il fallait qu'il y ait une action de sa part. Il devait aller se présenter devant l'Éternel pour demander pardon au nom du peuple. Et ceci nous ouvre les yeux sur un autre aspect de l'expiation. Il faut agir. Parfois, il y a quelque chose à faire pour obtenir l'expiation de ses péchés. Dans ce cas précis, physiquement, il fallait que Moïse monte se présenter devant l'Éternel pour demander ce pardon. Nous aussi, nous devons, quand nous nous rendons compte que nous avons transgressé la loi de Dieu, nous devons demander pardon. Nous devons agir rapidement pour tirer ça au clair, comme on dit, pour demander à Dieu de pardonner notre péché. De même, dans Nombre chapitre 16, Nombre chapitre 16, encore une fois, nous avons un péché en Israël, une rébellion contre Moïse et Aaron, et finalement contre Dieu, parce qu'il prétendait que c'était simplement contre Moïse, mais en fait, il n'acceptait pas ce que Dieu avait installé en Israël comme structure. Donc, nous sommes dans le contexte de la révolte de Corée, de Dathan, d'Abiram. Et au verset 46... de Nombre 16, verset 46. Nous lisons, « Moïse dit à Aaron, « Prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation. Car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. » Aaron prit le brasier, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée. Et voici, la plaie avait commencé parmi le peuple, il offrit du parfum, et il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Encore un autre exemple où il a fallu une action rapide pour passer entre la mort et la vie, pour arrêter cette punition qui tombait sur Israël rebelle. Il fallait agir promptement. Et nous aussi, nous ne devons jamais devenir paresseux avec le sujet du péché. Quand nous nous rendons compte que nous avons transgressé la loi de Dieu, nous devons agir promptement et aller à genoux vers celui qui a le pouvoir de pardonner nos péchés. Quand nous nous repentons sincèrement et nous demandons son pardon. Il est prompt à le faire, mais nous devons être prompts à y aller. Tout comme Aaron a couru, il n'a pas voulu attendre parce que c'était une question de mort ou de vie pour plusieurs des Israélites qui étaient là. Et pour nous aussi, frères et sœurs, c'est une question de mort et de vie. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. et nous connaissons les conditions par lesquelles nous pouvons recevoir ce don. Encore un autre exemple, Nombre 25. Tournons quelques pages encore. Nombre 25, verset 13. Nombre 25, verset 13. Regardons le contexte un petit peu pour mieux comprendre. Commençons verset 1. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. » Moïse dit aux juges d'Israël, « Que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. » C'est une chose sérieuse devant Dieu que de passer à l'idolâtrie. Verset 6, « Voici un homme des enfants d'Israël vint, et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'ils pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation, division dans le peuple. Certains comprenaient le sérieux de la situation, d'autres se livraient allègrement à la débauche, comme cet homme. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée, prit une lance dans sa main, il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Et il y eut 24 000 qui moururent de la plaie. Conséquence grave, 24 000. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité, après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. » Il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Par son entremise, Dieu a accepté de pardonner ce grand péché à cause de l'exemple qu'il avait montré. Le contexte dans les trois exemples que nous venons de regarder ici, c'était la rébellion contre Dieu. La débauche, l'idolâtrie, le péché. Et il fallait que quelqu'un intervienne rapidement de la part de Moïse et d'Aaron pour demander à Dieu sa miséricorde et son pardon. L'expiation, ici, dans ces exemples, nécessitait une action, nécessitait que quelqu'un agisse. Maintenant, nous comprenons, nous l'avons dit plutôt au début, que c'est Jésus qui a payé le prix de nos péchés, c'est lui qui a fait l'expiation pour nous. Mais nous n'avons jamais oublié que son action était nécessaire. Si Jésus-Christ n'avait pas fait ce qu'il a fait, il n'y aurait pas d'expiation pour nos péchés. Il n'y aurait pas de pardon pour nos erreurs, nos transgressions. Phiné est intervenu rapidement pour arrêter ce péché, même pour punir un coupable qui avait fait ça à la vue de tout le monde. Il a fait exprès pour montrer qu'il narguait Israël et qu'il faisait ce qu'il voulait le faire. Et il a assumé la responsabilité d'agir. Nous aussi, nous devons assumer la responsabilité d'agir rapidement quand nous voyons le péché dans nos vies. Quand nous le voyons chez nous, nous devons agir. Nous ne devons pas laisser les choses traîner, bien au contraire. Et si nous voyons pécher notre frère contre nous, là nous devons intervenir également, après la prière, après la méditation, après une examination de soi, mais on doit quand même intervenir les uns pour les autres, toujours dans un esprit d'humilité, dans le but de gagner notre frère. Mais nous comprenons que la Bible est claire à ce sujet-là aussi. Nous avons des responsabilités des uns envers les autres et nous devons agir promptement. Nous voyons à quel point Dieu a apprécié le zèle de Phiné. Et si nous sommes zélés contre le péché, nous aurons l'approbation de Dieu également. Il apprécie beaucoup ce zèle. Il souhaite le trouver chez nous. Il souhaite le trouver chez nous. Prenons encore un autre exemple, toujours dans le livre de Nombres, Nombres 31. Nombres 31. Il y a une expédition, je dirais bien, militaire ici, contre un peuple qui avait beaucoup nuit aux Israélites, Madian. On vient de voir ce qui s'était fait avec les Madianites, comment ils avaient causé la mort d'énormément, des milliers et des milliers d'Israélites. Dieu a déclaré une expédition militaire, il a dit « Tuez-les tous les hommes, et vous prendrez le butin. Vous pourrez garder une partie pour Dieu, une partie pour ceux qui sont restés avec les bagages. » Nous connaissons l'histoire. Mais regardons ce qui s'est passé au verset 48. Autre leçon intéressante pour nous de considérer. Les commandants des milliers de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines s'approchèrent de Moïse et lui dirent « Tes serviteurs ont fait le compte des soldats qui étaient sous nos ordres. Il n'en manque pas un homme d'entre nous. » Il n'y a pas eu de tués dans l'armée d'Israël. Ils sont partis à la conquête de cette nation qui s'est défendue, mais il n'y a pas eu de tués. Ça, c'est anormal dans une guerre, bien sûr. Verset 50, « Nous apportons comme offrande à l'Éternel chacun des objets d'or que nous avons trouvés, chaînettes, bracelets, anneaux, pendants d'oreilles et colliers, afin de faire pour nos personnes l'expiation devant l'Éternel. » C'est un usage intéressant d'expiation. Qu'est-ce qu'ils pensaient faire en faisant l'expiation en donnant cette offrande? Eh bien, nous comprenons que Dieu les avait protégés de la bataille. Et ils sont restés en vie malgré le danger qu'ils ont parcouru. Et ils ont ressenti une dette envers l'Éternel pour sa protection. Ils ont ressenti comme une dette, qu'il fallait s'acquitter de cette dette. Du moins, ils voulaient, au moins symboliquement, le faire. En fait, qu'est-ce qu'un homme peut donner en échange de sa vie? On n'a rien qu'on puisse faire, mais ils voulaient marquer cette bénédiction que Dieu leur avait accordée en faisant une offrande. Ils ressentaient une dette de gratitude envers Dieu pour sa bonté, pour sa protection. Et nous, est-ce que nous ressentons une telle dette pour la protection que Dieu nous donne, pour la générosité dont nous sommes l'objet des mains de Dieu régulièrement, tout ce que nous avons dans la vie elle-même, les bonnes choses que nous avons dans cette vie, les bénédictions qui rendent la vie agréable, l'avenir merveilleux pour lequel Dieu nous prépare, le but de la vie que nous vivons. Sommes-nous conscients de cela? Sommes-nous sensibles aux gestes de l'Éternel qu'il accomplit en notre faveur? Est-ce que nous sommes vraiment sensibles et conscients de nos bénédictions? Il est très facile de prendre pour acquis les bonnes choses que Dieu nous donne, et nous en avons beaucoup tous les jours. C'est humain plutôt que de se concentrer sur les éléments que nous n'aimons pas, ce qui nous dérange. C'est ça qui accapare trop souvent notre attention, alors que nous passons à côté de toutes les bonnes choses que Dieu nous donne dans la vie. Avons-nous l'habitude de compter nos bénédictions, de les compter, de les énumérer? C'est une très bonne activité à accomplir lors du sabbat. Quand nous avons un peu plus de temps de réfléchir, nous passons en revue notre semaine, nous réfléchissons à ce que Dieu a fait en notre faveur pendant les derniers jours. C'est un bon moment de vraiment réfléchir et de remercier Dieu en détail pour toutes ses bénédictions. Je me souviens, quand j'étais tout jeune dans l'Église, on avait d'autres cantiques. On avait d'autres livres de cantiques. Si vous êtes dans l'Église depuis un moment, vous vous souvenez peut-être de certains de ces autres cantiques. Mais je me souviens d'un cantique. Je n'ai jamais trouvé de traduction en français, mais je vous ai traduit quelques strophes ici parce que la leçon est importante pour nous. Donc voici ma traduction. « Quand sur les flots de la vie, tu es secoué par la tempête, quand tu es découragé, pensant que tout est perdu, compte tes nombreuses bénédictions. Nomme-les une par une, et ça te surprendra ce que Dieu a fait. Compte tes bénédictions, nomme-les une par une. Compte tes bénédictions, vois ce que Dieu a fait. Ça m'est resté depuis, je ne sais pas quel âge que j'avais, quand nous avons changé de ce livre de cantiques, je devais avoir 6 ou 7 ans, je pense. Mais ce cantique-là m'est resté. Et l'idée derrière est très bonne, de prendre le temps d'énumérer, de réfléchir en détail à toutes les bénédictions que Dieu nous a données. Tout comme ces militaires, quand ils sont revenus, se sont comptés, ils étaient étonnés, on est tous là, personne n'a été tué. Quand on part dans une bataille ou dans une guerre, on s'attend à ce qu'il y ait des pertes. Là, il n'y en avait pas. Et ces hommes-là ont ressenti cette dette de gratitude envers Dieu pour leur vie. Et nous pouvons également être très reconnaissants pour la vie que Dieu nous donne, mais aussi pour toutes les bonnes choses que nous avons dans cette vie. Il y a tout plein de bonnes choses que Dieu nous donne. Alors, frères et sœurs, prenons un peu de temps le jour du sabbat et pendant la fête des tabernacles qui va venir. Une des choses que nous allons faire, c'est donner une offrande, comme nous faisons aujourd'hui. Mais nous allons donner quelques offrandes à la fête des tabernacles également. Et une des choses, nous lisons Deutéronome 16:16, on doit donner selon les bénédictions que l'Éternel, notre Dieu, nous a accordées. Ça nous oblige de réfléchir sur nos bénédictions. Et c'est une très bonne activité, c'est une très bonne habitude à prendre pendant le sabbat hebdomadaire. Et aussi, c'est obligé lorsque nous donnons une offrande. Nous devons réfléchir aux bénédictions que Dieu nous a données et données en conséquence. Continuons, regardons d'autres passages qui parlent d'expiation. Deutéronome chapitre 21. Deutéronome chapitre 21. Commençons au verset 1. Deutéronome 21, verset 1. « Si dans le pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession, l'on trouve étendu au milieu d'un champ un homme tué, sans que l'on sache qui l'a frappé, tes anciens et tes juges iront mesurer les distances à partir du cadavre jusqu'aux villes des environs. Quand on aura déterminé la ville la plus rapprochée du cadavre, les anciens de cette ville prendront une génisse qui n'est point servi au travail et qui n'est point tiré au joug, ils feront descendre cette génisse vers un torrent qui ne tarisse jamais et où il n'y ait ni culture ni semence, et là ils briseront la nuque de la génisse dans le torrent. Alors s'approcheront les sacrificateurs, fils de Lévi, car l'Éternel ton Dieu les a choisis pour qu'ils le servent et qu'ils bénissent au nom de l'Éternel. Et ce sont eux qui doivent prononcer sur toute contestation et sur toute blessure. Tous les anciens de cette ville la plus rapprochée du cadavre laveront leurs mains sur la génisse à laquelle on a brisé la nuque dans le torrent. En prenant la parole, ils diront « Nos mains n'ont point répandu ce sang, et nos yeux n'ont point vu répandre. Pardonne, ô Éternel, à ton peuple Israël que tu as racheté. » Expiation, encore une fois. N'impute pas le sang innocent à ton peuple d'Israël, et ce sang ne lui sera point imputé. Ainsi, tu dois faire disparaître du milieu de toi toute effusion de sang innocent en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Dans la Nouvelle Bible Second, le verset 8 dit « Ainsi sera faite pour eux l'expiation du sang ». C'est traduit par expiation dans cette version. Comment est-ce que nous devons comprendre cette cérémonie? Eh bien, le contexte ici, c'est un meurtre inconnu. Quelqu'un a été assassiné, mais personne n'a rien vu. On ne sait pas qui c'est. Tout d'abord, il devait être témoin, promettre solennellement devant Dieu, on n'a rien vu, nous ne sommes pas conscients de ce qui s'est passé, nous ne savons pas qui l'a fait. Mais le village le plus proche, la ville la plus près, devait accepter, assumer responsabilité pour ce qui s'était fait à proximité de leur demeure. Ils devaient accepter la responsabilité, offrir un sacrifice, se laver cérémoniellement pour dire « Nous n'avons rien vu, nous ne savons pas ce qui s'est passé. » Il fallait faire l'expiation pour ce sang versé par un meurtre inconnu. Ils devaient accepter la responsabilité de ce qui se passait autour d'eux. par cette cérémonie de sacrifice. Alors, est-ce qu'il y a une leçon là-dedans pour nous? Comment est-ce qu'on pourrait appliquer cela à nous? Accepter la responsabilité de ce qui se passe dans son village ou dans sa nation. Une chose nous devrions faire, la Bible nous souligne cela plusieurs fois, c'est de prier et demander à Dieu de pardonner les péchés des sociétés dans lesquelles nous vivons. Comme Daniel qui confessait son péché et le péché de sa nation. Nous devons crier, pleurer pour des choses terribles qui se passent maintenant dans tous les pays du monde. Le sang versé, la dérive sexuelle qui se passe dans beaucoup de pays, les crimes qui se commettent facilement, l'oppression des pauvres, des sans-puissants. Il y a énormément de mauvaises choses qui arrivent dans ce monde, dans chaque nation. Et une chose que nous devrions faire, c'est prier, demander à Dieu sa miséricorde et demander pardon au nom de notre nation, au nom de notre village, de crier, de pleurer à Dieu à cause des crimes qui s'y commettent et de demander à Dieu de faire revenir son Fils, Jésus-Christ, le plus rapidement possible pour établir le royaume de Dieu. Est-ce que nous acceptons une certaine responsabilité, puisque c'est le cas, la proximité, est-ce que nous acceptons une certaine responsabilité pour notre congrégation? Là où nous nous assemblons avec d'autres personnes, est-ce que nous faisons ce que nous pouvons pour améliorer l'entente qui est là? Ça fait partie d'accepter une certaine responsabilité pour notre congrégation. Je dirais même pour l'Église au sens plus large, dans la mesure de ce qui se passe autour de nous. Nous avons une responsabilité des uns envers les autres pendant la fête des tabernacles. Nous avons des responsabilités les uns envers les autres à chaque fois que nous sommes assemblés. Nous devons assumer une certaine responsabilité pour ce qui se passe à proximité de nous. Ça ne veut pas dire que nous sommes forcément coupables de ce que d'autres personnes ont fait, mais nous avons une part de responsabilité. Et nous devons faire ce que nous pouvons. Si nous voyons une erreur, si nous voyons une blessure qui se fait entre personnes, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a moyen d'intervenir pour essayer d'améliorer ça, d'adoucir la difficulté? Je pense que c'est une leçon à tirer de cet exemple-là. On trouve un homme innocent qui était assassiné, ou un homme assassiné, eh bien, on avait certaines responsabilités à accepter si ça se passait à proximité de sa maison. Il fallait faire l'expiation. Et il fallait montrer qu'on avait les mains propres dans cette affaire. Ça, c'est une leçon qui peut nous servir pendant la fête des tabernacles, quand nous allons passer du temps ensemble. J'ai déjà mentionné qu'on a tous des personnalités différentes. Nous allons trouver une entente plus facile avec certaines qu'avec d'autres. Mais tous, nous pouvons faire l'effort de créer le meilleur entente possible et que la fête se passe au mieux pour chaque personne qui y est. Nous devons être en train de chercher les moyens d'améliorer la fête des tabernacles pour d'autres personnes. Tout comme le reste de l'année, nous devrions être en train de chercher comment nous pouvons améliorer la vie des gens que nous côtoyons. C'est une chose tout à fait chrétienne à faire. Bien, prenons un exemple dans 2 Samuel maintenant. 2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel chapitre 21, verset 1. 2 Samuel chapitre 21, à partir du verset 1. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, « C'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. » Le roi appela donc les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoriens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, « Que puis-je faire pour vous, et avec quoi ferai-je expiation, afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel ?» David a dit, je dois faire expiation. Nous devons enlever ce péché. Et Dieu lui avait fait comprendre que La famine, c'était à cause de ce crime qui avait été commis par un roi contre des personnes liées par serment aux Israélites. Il voulait faire l'expiation. Et vous pouvez lire le reste de l'histoire pour savoir ce qu'il a dû faire. En fait, il a fini par tuer ou faire tuer quelques descendants de la maison de Saül pour faire cette expiation. Et apparemment, c'est ce que Dieu voulait. À l'époque, le sang répondait au sang. Ici, l'expiation, c'était un autre contexte, c'était agir envers des gens qui avaient reçu un tort. C'est ça que David devait faire. Il devait agir, en quelque sorte, faire une restitution envers ceux des gens qui avaient reçu un tort de la part des Israélites. Faire un geste pour restaurer une relation. Ça aussi, c'est une sorte d'expiation. C'est le mot que David a utilisé ici. Je pense que, en fait, c'était intéressant pour moi de voir, en faisant l'étude nécessaire pour préparer ce sermon, de voir que les gens avaient différentes idées à propos de ce que l'expiation voulait dire. Et que chacun de ces exemples souligne une leçon spirituelle que nous pouvons prendre pour nous. Alors ici, je me suis posé la question, est-ce que je sens une urgence d'être pardonné si je froisse quelqu'un d'autre? Est-ce que je fais tout ce que je peux pour guérir, restaurer les relations entre moi et d'autres personnes? Et qu'en est-il de vous? Est-ce que vous êtes prêt à agir? Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier quelque chose, si ça serait nécessaire, pour retrouver de bonnes relations avec quelqu'un? Si ça nous coûtait quelque chose, est-ce qu'on en serait quand même disposé à faire le nécessaire pour guérir les rapports que nous avons avec un frère ou une sœur, ou un membre de nos familles, ou en fait, on n'est pas limité par dans ces choses. Ça devrait devenir un mode de vie pour nous avec tous ceux avec qui nous entrons en contact. David a demandé, qu'est-ce que je dois faire pour expier ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je peux faire pour apaiser cette relation? Et en fait, c'est apparemment même pas les Gabaonites qui se sont plaints, peut-être dans leur prière, mais Dieu a vu qu'il y avait quelque chose d'impuni et c'est lui qui insistait. Il a attiré l'attention de David par cette famine afin qu'il agisse. Et cet exemple est là pour nous. Nous devons réfléchir là-dessus pour savoir quelle leçon est-ce que Dieu veut m'enseigner à moi quand je lis ce passage-là. Je lis cet exemple-là. Avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel pour bénir le peuple, pour bénir mon peuple. Parfois, nous avons quelque chose à faire aussi pour réparer une relation. Et nous devrions être prêts à le faire et disposés à sacrifier quelque chose, si c'était nécessaire, pour pouvoir l'accomplir. Prenons maintenant un passage dans les Proverbes aussi. Proverbes, chapitre 16. Proverbes, chapitre 16. Commençons au verset 1. Proverbes 16, verset 1. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Qu'il en soit toujours ainsi. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout cœur hautain est une abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. On expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Comment comprendre? Eh bien, nous avons déjà vu que, en fait, l'expiation, dans le sens pur, ne peut venir que de Dieu. Mais parfois, nous avons un effort à faire pour tendre dans cette direction. Tendre dans ce sens. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. La version Martin dit ceci, « Il y aura propitiation pour l'iniquité par la miséricorde et la vérité, et on se détourne du mal par la crainte de l'Éternel. » Autrement dit, Dieu s'attend à ce que nous pratiquions la miséricorde et la vérité. Et il nous pardonne en partie selon l'attitude que nous avons. Il a déjà expliqué qu'on ne peut pas demander pardon à lui si nous, on n'est pas prêt à pardonner à notre frère ou à notre sœur. L'attitude joue un rôle important dans le pardon et l'expiation. La version Darby dit « Par la bonté et par la vérité, propitiation est faite pour l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. » Leçon pour nous, notre attitude est importante. Comme Jésus l'a dit, si nous ne sommes pas prêts à pardonner ceux qui nous ont offensés, notre Père ne va pas nous pardonner non plus. Notre attitude joue un rôle. Et on doit pratiquer la voie de la bonté envers d'autres personnes, la voie de la fidélité, la miséricorde, la vérité, la bonté, la vérité, comme ces mots sont traduits selon ces différents passages. Comme j'ai dit, je répète ce que nous avons vu au début. Dans notre contexte, c'est Jésus-Christ qui a fait l'expiation pour nous. Mais dans la réalité de tous les jours, les Israélites comprenaient que pour être pardonné, il faut être pardonneur. Il faut avoir une attitude qui plaît à Dieu si nous voulons recevoir la bénédiction du pardon et la grâce de l'Éternel. Par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Notre attitude joue. Notre attitude a un rôle important dans le fait de recevoir l'expiation de nos péchés. Dieu applique le sacrifice de son Fils uniquement quand nous sommes prêts à tendre ce pardon vers d'autres personnes. Je vous ai déjà, je pense, raconté l'histoire ou l'anecdote d'un homme qui a dit à son pasteur un peu fièrement, il a dit « Moi, je n'oublie jamais un tort ». Et son pasteur a réfléchi un moment, il a dit « Bon ben, j'espère que vous ne péchez jamais ». Parce que si vous allez garder ça et refuser de pardonner à quelqu'un d'autre, vous n'avez pas le droit de pécher non plus. Pas du moins pour recevoir la propitiation, recevoir ce pardon. Ésaïe 27 maintenant. Prenons encore un autre exemple. Ésaïe 27, verset 8. Car c'est avec mesure que tu l'as châtié par l'exil. En parlant d'Israël, Juda, qui devait partir dans la captivité. En l'emportant par le souffle impétueux du vent d'Orient. Ainsi, le crime de Jacob a été expié. Et voici le fruit du pardon de son péché. L'Éternel a rendu toutes les pierres des autels parées à des pierres de chaux, réduites en poussière. Les idoles d'Astarté, les statues du soleil ne se releveront plus. C'est avec mesure que tu l'as châtié, en l'emportant par le souffle impétueux du vent du soir, ainsi le crime de Jacob sera expié. Nous comprenons que l'expiation spirituelle qu'il nous faut, c'est un don gratuit de Dieu. Nous nous repentons et quand c'est fait sincèrement, eh bien, Dieu nous pardonne par le sang de son Fils. Mais parfois, ça ne veut pas dire que toutes les mauvaises retombées de nos actions du passé disparaissent. Parfois, il y a un prix à payer, même si spirituellement, nous sommes pardonnés. Il y a parfois un prix à payer. Nous devons apprendre par l'expérience. Pour les Israélites à l'époque, ils ont compris que parfois, pour être pardonné, il fallait souffrir. Et ça peut être le cas pour nous aussi. Le fait que Dieu nous offre le pardon, ça ne veut pas dire que, comme j'ai dit, toutes les retombées vont disparaître automatiquement. Nous avons parfois à débattre avec le résultat de nos mauvaises actions, et nous devons comprendre que ça peut faire partie du processus. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas pardonnés, mais ça veut dire qu'il y a parfois d'autres résultats, comme l'enfant de David qui est mort après son péché avec Bathsheba. Dieu a dit « ton péché est pardonné, mais l'enfant va mourir ». Il y a parfois des effets secondaires qui ne disparaissent pas immédiatement. Dans le même ordre d'idée, dans Daniel chapitre 9, regardons Daniel chapitre 9, un exemple similaire, verset 24. Daniel chapitre 9, verset 24. L'ange est en train d'expliquer une prophétie à Daniel. Et au verset 24, c'est, il dit, « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions, pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. 70 semaines ont été déclarées pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Ça, c'était une prophétie de Jésus-Christ. On peut calculer quand il devait venir par ces 70 semaines. C'est un sujet qu'on traitera un jour quand on prendra tout ce sujet. Ça prendra du temps pour l'expliquer. Mais ici, il a fallu du temps. Il fallait attendre. Il fallait passer par des moments difficiles, comme Daniel était en captivité au moment où il a reçu ceci. Il y avait des moments difficiles à passer, à vivre, avant de pouvoir recevoir l'expiation, finalement. Parfois, il faut du temps. Parfois, il faut quelques coups durs. Nos péchés sont pardonnés au moment de notre baptême, mais ça ne veut pas dire que tous les retombées de nos erreurs vont disparaître immédiatement. C'est ce que nous voudrions tous, moi y compris, mais la vie n'est pas toujours ainsi. Et nous devons accepter, comprendre que parfois on va devoir se débattre avec les résultats de mauvaises décisions que nous avons prises dans le passé, même si Dieu nous pardonne. Il nous pardonne, mais nous avons des leçons à apprendre. Et ça, c'est une leçon d'expiation comme, que nous tirons de ces quelques passages-là que nous venons de lire. Encore deux passages. 1 Samuel, chapitre 3. 1 Samuel, chapitre 3. Verset 14. 1 Samuel chapitre 3, verset 14. Mais commençons un peu plus tôt. C'est ici où Samuel commence véritablement son ministère, sa vocation, on va dire. Et il devait remplacer un autre sacrificateur, prêtre, qui lui avait été infidèle. Il avait permis des choses qu'il n'aurait jamais dû permettre. Verset 13, Dieu dit, « Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. » Il a fait exception de personne. Il a permis à ses fils d'agir de manière honteuse. Et vous pouvez lire tout cet exemple si vous ne vous souvenez pas de cela. Mais regardez le résultat, verset 14. « C'est pourquoi je jure à la maison d'Eli que jamais le crime de sa maison, la maison d'Eli, ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Ce péché restera et il ne redeviendra plus sacrificateur pour moi. Il ne sera plus le prêtre pour moi. » Ça peut sembler un peu surprenant que Dieu dit qu'il n'y aura jamais de pardon pour ce crime-là. Et spirituellement, il y en aura. Mais la leçon de ce qu'il a eu là, le mépris qu'il avait pour Dieu, Dieu n'allait pas revenir sur cette punition qu'il imposait à la maison d'Eli. Il ne faut jamais prendre l'expiation pour acquise. Nous devons comprendre à quel point c'est précieux à chaque fois que nous allons à Dieu pour demander pardon. Et nous devons veiller à ne pas avoir une attitude endurcie qui pourrait nous rendre incapables vraiment de nous repentir et de demander à Dieu véritablement de nous pardonner. C'est ce qu'on appelle le péché impardonnable. Nous trouvons des références à ça dans la Bible aussi. Si quelqu'un se laisse aller au point où il est endurci et il ne veut pas demander pardon à Dieu, il ne veut plus se repentir, mais dans ce cas-là, il n'y a pas de pardon et le péché devient impardonnable. Dieu nous promet de pardonner si nous nous repentons sincèrement. C'est une promesse de Dieu, nous n'avons pas à en douter. Mais il ne faut pas non plus prendre pour acquis ou prendre à la légère le don merveilleux que Dieu nous offre, le don de son pardon, de l'expiation. J'espère que vous avez trouvé ce survol du mot « expiation », le mot qui est traduit par « expiation » dans la Bible, surtout l'Ancien Testament. Moi, je l'ai trouvé intéressante. Ça enrichit, ça étoffe un petit peu la signification de ce mot et de ce contexte. Maintenant, pour terminer, lisons Lévitique chapitre 23. Lévitique 23, verset 27. Lévitique 23, verset 27. Le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Dieu nous donne un jour, chaque année, toute une journée, pour réfléchir à cette idée d'expiation. Gardons à l'esprit, frères et sœurs, la signification et le précieux de l'expiation. Gardons à l'esprit ce que les Israélites avaient en tête quand ils ont pensé à l'idée d'expiation et à la signification de ce jour, le grand pardon offert par Dieu à son peuple. Frères et sœurs, soyons profondément reconnaissants de sa miséricorde. Ne le prenons jamais pour acquis. Et je vous souhaite, frères et sœurs, une excellente fête des tabernacles et que tout aille bien pour vous tous et que Dieu vous bénisse.